Nous allons maintenant retrouver Caroline de Loriol qui reçoit Laurence Calame. Laurence Calame a mis en scène La puissance des mouches d'après le roman de Lydie Salvert et qui est joué actuellement au Théâtre Le Poche jusqu'à dimanche soir.
Bonjour. Comment en êtes-vous venue à la mise en scène ?
J'ai été comédienne, j'ai été traductrice, je me suis intéressée au texte. Et puis j'y suis venue au fond de façon presque naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'avais trop envie de prendre la place des metteurs en scène quand je travaillais. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment.
Et cela fait-il longtemps ?
Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 5-6 ans que j'ai commencé.
D'accord. Et comment avez-vous découvert l'écrivain Lydie Salvert ? Était-ce aussi il y a longtemps
ou... C'est une comédienne, c'est Yvette Terola qui m'a fait cadeau d'un livre à la première d'une pièce qu'on avait montée ensemble. C'était à l'époque La Compagnie des Spectres de
oui.
Lydie Salvert.
Tout à fait.
Et voilà, elle m'avait fait cadeau de ce livre que j'ai trouvé très très original et très drôle, en même temps assez féroce. J'en ai fait une adaptation pour la radio.
Oui.
Et puis voilà, puis j'ai lu les autres livres de Lydie Salvert parce que j'aime beaucoup cette écriture et que La puissance des mouches, tout à coup, ça me semblait être un roman particulièrement juste pour le théâtre, enfin assez théâtral.
Et pourriez-vous nous dire en quelques mots de quoi traite La puissance des mouches ?
Bon, c'est l'histoire d'un ancien gardien de musée qui est en prison. Parce qu'il a commis un meurtre et qui est questionné par est confronté à quatre personnes. Il y a le juge d'instruction, son avocat, son médecin psychiatre et l'infirmier de la prison. Et petit à petit, pour répondre à leurs questions, il se trouve confronté avec son passé. Il se souvient tout à coup de choses et il commence à raconter sa vie. Et je ne sais pas si ça nous apprend les raisons de son meurtre, mais en tout cas, ça le situe dans un univers de potentiel meurtrier, je dirais. Bon, il a passé à l'acte, voilà, et donc on comprend un petit peu quel est cet homme.
Et la pièce elle-même peut être comprise de différentes façons, j'imagine. Et quelle est votre interprétation personnelle ?
Moi, j'aime laisser l'interprétation la plus libre possible au spectateur. C'est-à-dire que je crois que mon travail, c'est d'ouvrir des pistes ou de poser des questions, sans forcément souligner au stabilo ce que moi j'ai envie de raconter. Donc c'est un peu ça, je dirais, mon interprétation, c'est essayer de rendre les choses les plus concrètes possibles, essayer de faire que le spectateur, tout à coup, soit ramené à lui-même, où il puisse se dire, tiens, ça j'ai déjà vu, ou ça me ressemble, ou je connais, et puis qu'à partir de ces bribes de choses qu'on reconnaît, on puisse réfléchir après, pour soi-même.
Lydie Salvert est fille d'immigrés espagnols qui sont arrivés en France en 1939. Le héros joué par Jacques Michel est également fils d'immigrés. Y a-t-il, pensez-vous, dans cette pièce une part d'autobiographie ?
Oui, on retrouve des thèmes, on retrouve des histoires, pas seulement d'ailleurs dans La puissance des mouches, c'est aussi le cas de La Compagnie des Spectres, c'est aussi le cas de... On retrouve des personnages comme ça. Je crois dans Les Belles Âmes aussi. Je crois aussi là récemment dans Les Vers mangent le bœuf mort. Voilà le titre du livre que je cherchais. Donc il y a bien sûr elle se raconte Lydie Salvert. Elle se raconte énormément, mais je crois comme tout écrivain. Elle ne se cache pas. C'est ça que je trouve être tout à fait surprenant, c'est-à-dire que son personnage est un homme, il a pourtant des histoires qui sont extrêmement parallèles à celles qu'elle raconte de son enfance ou de sa vie. À partir du moment où on sait ça, on sait aussi qu'elle romance. Bien sûr que l'autobiographie en tant que telle n'est pas très intéressante, mais c'est une espèce de matériau sur lequel elle travaille ensuite pour s'amuser, pour romancer, pour raconter ce qu'elle a entendu, elle dit qu'elle fait feu de tout bois, donc il suffit qu'elle soit sur un thème pour que son esprit accapare autour d'elle tout ce qui a trait à ce thème. Mais bien sûr qu'elle puise aussi dans son passé, comme nous tous.
Oui. Et pensez-vous que si l'évolution du personnage central, il y a une évolution au sein du personnage même ou...
Je crois que oui, parce que la parole forcément change l'individu. C'est-à-dire qu'entre le souvenir de son passé qu'il a pour lui-même fait ressurgir avec la lecture des œuvres de Pascal, et le moment où il parle, où il raconte, où il dit ses souvenirs, je pense qu'il y a c'est un changement assez important dans la vie de quelqu'un, de matérialiser et de dire. Et je pense qu'à la fin de cette histoire, il est beaucoup plus clair déjà par rapport à lui-même. Et il est certainement, il souffre moins. Autant je le vois souffrant dans les premières, dans les premiers moments de cette histoire, autant me semble-t-il, à partir du moment où les choses sont évacuées, dites, il peut respirer. Mm-hmm. C'est un peu ça pour moi, cette période de narration.
Oui. Et justement, vous parliez donc de Pascal, car la pièce se déroule sous forme de monologue placé sous l'égide de Pascal. Quelle place occupe Blaise Pascal dans La puissance des mouches ?
Blaise Pascal, il a une position qui est à plusieurs niveaux. Du point de vue simplement de la narration, c'est l'auteur que découvre le personnage de l'histoire. Ce personnage qui n'a que des rapports extrêmement lointains avec la culture classique et officielle et qui, du jour au lendemain, découvre ce monument de la culture française, Blaise Pascal, par hasard, puisqu'il est engagé comme guide de musée au musée de Port-Royal qui a abrité Pascal pendant de nombreuses années. Donc il découvre cette culture. Et c'est une découverte absolument capitale dans sa vie. C'est-à-dire que tout à coup, il a accès à cette langue, à cette pensée qui le transforme profondément. Même s'il ne comprend de Pascal que ce qui est à sa portée, au fond.
Oui.
Y a un autre niveau qui est celui de la langue. Lydie Salvaire dit que... Pour elle-même, elle a eu une espèce de guerre de langue dans son histoire, puisqu'elle est de langue espagnole. Effectivement, sa langue maternelle, c'est l'espagnol. Et puis qu'elle découvre le français à travers les classiques, à travers l'école. Et que c'est une langue, elle le dit, infiniment désirable pour elle. Et cette beauté de la langue à laquelle elle est très sensible, cette économie, cette perfection du terme choisi, c'est vrai que chez Pascal, c'est un exemple particulièrement fort de la langue française. Donc il y a ça aussi, dans un autre registre, c'est cette volonté d'une expression qui est la plus juste, la plus adéquate possible pour s'exprimer, et qui est au fond en contradiction avec cette espèce de brutalité épaisse du personnage.
Mmh. Oui, c'est juste. Et par rapport à la mise en scène, je pense que vous avez été vous-même, n'est-ce pas, au musée de Port-Royal.
Oui, c'est la première démarche, effectivement, qu'on a faite avec le décorateur, parce qu'il faut bien commencer par un bout.
Tout à fait.
Donc, on a été en touriste voir ce musée de Port-Royal, qui est un petit musée tout à fait provincial, très isolé, où il y a vraiment trois pelés, quatre tendus qui vont et peut-être quelques classes, comme il le dit, des lycées Blaise Pascal de la région parisienne. C'est un musée c'est pas du tout un musée moderne, c'est pas un musée interactif, attractif, c'est un musée à l'ancienne avec avec un peu de poussière comme ça.
Et cela a-t-il justement joué dans votre mise en scène par rapport au jeu de l'acteur, notamment la décoration et l'interprétation peut-être?
Oui, beaucoup. C'est vrai que, a priori, l'histoire se passe en prison, que ça me semblait presque un prétexte, la prison, pour raconter cette histoire chez Lydie Salvaire, et que situer de manière très concrète une prison sur scène avec un parloir, avec le bureau du juge d'instruction et une infirmerie, etc., me semblait un peu réducteur. Et donc on a cherché à ouvrir en quelque sorte à partir de son passé, à partir de cette situation de musée. Et puis comme ce qu'il raconte du musée, au fond, est plein d'images, on s'en est servi pour établir un univers qui est à la fois le musée, mais à la fois la prison aussi. Au fond, le siège sur lequel il est assis pourrait aussi bien être le siège du gardien de musée que le siège sur lequel on est assis quand on est prisonnier de droit commun.
Oui. Parce qu'en l'ayant vu donc hier soir, j'ai constaté que la scène avait quand même une ouverture en dépit de cet univers carcéral. Donc il y a une mise en scène qui respire quand même par rapport
oui.
à...
C'est pas un huis clos, mais je crois que sa tête non plus n'est pas une tête fermée. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui tourne en rond, c'est effectivement quelqu'un qui ouvre vers des possibles, qui bien sûr a besoin du passé... Mais peut-être justement pour sortir quelque part de sa propre prison. Mm-hmm. Je crois que la parole est une façon de s'échapper. Et comme l'histoire, c'est quelqu'un qui prend la parole, ce serait, je crois, pas juste de l'enfermer derrière des grilles et de cages.
Et il y a aussi un ton humoristique qui est quand même très perceptible à travers la pièce.
Oui, elle a une... mais ça c'est l'écriture aussi qui est... qui est une écriture féroce, qui est drôle, enfin, je dirais.
Pour des sujets qui sont quand même...
Oui, mais... Enfin, moi, je crois beaucoup à l'humour pour permettre l'émotion. Il me semble que l'émotion... si on recherche l'émotion à partir de la tension, je crois qu'on n'y arrive pas. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression que cet humour, cette façon comme ça de prendre un tout petit peu de distance par rapport à soi et un peu d'ironie... permet d'autant mieux, comme un élastique, au fond, de retendre sur des choses qui sont graves, qui sont pas drôles.
D'ailleurs, un des thèmes abordés est l'amour. Et l'auteur semble donner une image assez négative. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou...
Je ne crois pas que c'est une image négative de l'amour. C'est son histoire à lui. Il a quand même eu des parents particulièrement abominables. Et l'amour, ou enfin en tout cas ce qui a lié ses parents, et qu'il faut bien appeler amour, puisque papa aime, non, maman aime papa. cet amour-là, c'est vrai que c'est un amour qui fait un peu froid dans le dos, et que ce qu'elle raconte. Au fond, c'est que peut-être quand on a connu cette forme d'amour-là, quand on a été aussi mal aimé que ça, il est difficile d'inventer autre chose et que les choses se reproduisent et que l'amour ou le non-amour qu'il éprouve à l'égard de sa femme est au fond un peu à l'image de ce qu'il a vécu. C'est aussi cette façon qu'il a envie de s'en détacher. Enfin, il se sert de Pascal pour essayer de dire que la vanité de l'attachement humain, c'est mon dada, dit-il. C'est-à-dire que l'attachement, il ne faut pas s'attacher à quoi que ce soit, il faut être esprit pur. Parce qu'au fond, l'amour, ça n'est qu'empêtrement et contrainte.
Et en qualité de metteur en scène, qu'attendez-vous des acteurs avec lesquels vous travaillez?
J'ai envie de dire, c'est un peu désagréable ce que j'ai envie de dire, mais j'attends d'eux qu'ils travaillent.
Oui.
ça semble évident et ça ne l'est pas. Je crois que ce métier est un métier qui demande beaucoup de travail, contrairement à ce qu'on a, ce que je croyais moi-même quand j'ai commencé le théâtre. Quand j'avais 18 ans, je me suis dit, c'est formidable, c'est un truc, je suis sûre que je suis douée, je vais y arriver et tout. Et plus j'avance, quelquun comme Jacques Michel, je crois, en est un exemple extrêmement significatif et frappant. C'est un acteur qui a de la bouteille, c'est un acteur qui a vraiment des heures de vol derrière lui. Et c'est un acteur qui ne lâche pas une seconde le travail. Hier, avant-hier, si je vais revoir le spectacle et que je lui donne comme ça deux, trois impressions en sortant, je sais qu'il va y travailler et que le lendemain, le spectacle va être un peu différent. Ça, c'est une des choses importantes, je crois. Et puis, j'attends aussi que... J'attends de la confiance, ça paraît aussi évident, mais c'est pas si facile à donner sa confiance. L'acteur est quand même quelqu'un qui se livre, qui s'expose, et le rapport de confiance qu'il peut avoir avec moi est complètement essentiel, parce que s'il se méfie et qu'on est en défiance réciproque, simplement on n'avance pas.
Oui. Et vous-même, qui êtes également comédienne ainsi que metteur en scène, faites-vous actuellement du théâtre en tant que comédienne? Et d'autre part, que vous a apporté le théâtre jusqu'à maintenant?
Non, ça fait longtemps que j'ai plus joué. C'est à la fois un choix et à la fois des circonstances. Je crois que j'ai peur de jouer aujourd'hui. Je trouve que c'est un métier très très difficile, beaucoup plus difficile que la mise en scène. Peut-être justement parce qu'il faut tellement faire confiance quand on est acteur et que j'ai plus très envie de faire confiance.
Tout à fait. Et dernière question, quels sont vos projets futurs à l'avenir? Que comptez-vous faire?
Mes premiers projets, c'est d'aller un peu voir le monde. Je trouve que j'ai pas assez voyagé. J'ai beaucoup sillonné l'Europe, mais finalement, pas beaucoup le monde. Donc je vais partir là un petit peu, je vais partir en Argentine quelque temps.
Pour un certain temps?
Je sais pas, pour aller voir un peu d'autres façons d'aborder le quotidien. Voilà, ça c'est mes projets, et puis... Et puis je traduis de nouveau, je traduis de l'allemand en français, voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous étions avec Laurence Calame, metteur en scène de La Puissance des Mouches, qui joue aux Poches de Genève jusqu'au 6 février.